quoi Prométhée, parmi tous les éléments à sa disposition, parmi toutes les armes et les outils qu'il pouvait usurper aux dieux, a-t-il volé le feu pour le donner aux hommes? Et pourquoi Zeus ne lui pardonne-t-il pas ce crime? Comment la pièce d'Eschyle, Prométhée enchaîné à son rocher, le foie dévoré par un aigle, raconte-t-elle l'histoire de notre humanité et la naissance de notre conscience politique? Approchez-vous autour du feu pour entendre cette histoire.
La figure du foyer domestique devient la fournaise d'un soleil ou d'un enfer. Comment mieux dire que la maîtrise d'un feu nous donne la conscience de posséder un pouvoir surhumain? En nous revit alors l'orgueil d'un Prométhée.
Bonjour Olivier Py.
Et bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin à distance. Vous êtes près d'Avignon, c'est ça? Vous préparez le festival?
Eh oui.
Eh bien, merci de nous accorder de votre temps. On a hâte de voir ce festival d'Avignon hein, qui aura lieu presque comme d'habitude, n'est-ce pas, cet été en juillet?
Ah, tout est dans le presque.
En tout cas, il y aura des acteurs en chair et en os.
Oui, en tout cas, il aura lieu, c'est ça qui importe.
Voilà.
De cette incarnation, évidemment.
Ce matin, nous parlons de Prométhée enchaîné. Vous avez entendu Bachelard rappeler que la maîtrise d'un feu nous donne la conscience de posséder un pouvoir surhumain. C'est sans doute pourquoi Jimi Hendrix, lui aussi, veut s'approcher du feu. Est-ce l'attrait pour ce feu, Olivier Py, qui vous fait tant aimer cette pièce?
Alors, j'ai aucun doute sur le fait que Jimi Hendrix se soit approché du surhumain. Là, vraiment, la démonstration est parfaite.
On est d'accord là-dessus.
Mais qu'est-ce que le feu? Et qu'est-ce qu'on appelle le feu, notamment dans la pièce d'Eschyle? Alors, dans la pièce, on énumère toutes les sciences et les sciences humaines, le langage comme la construction des bateaux, faisant partie de ce que Prométhée a donné aux hommes. Qu'est-ce que c'est que ce feu? Je voudrais pas christianiser les Grecs, mais quand on voit la petite flamme de la Pentecôte sur la tête des apôtres, je pense qu'on s'approche d'une certaine idée du feu. Le feu, c'est l'esprit, c'est l'intelligence, c'est la possibilité de réflexivité, de voir quelque chose, et c'est peut-être le début du dialogue avec les forces obscures qui nous dépassent. Donc ce feu, il est beaucoup plus large que la technique. J'ai vu quelquefois des mises en scène de Prométhée qui mettaient l'accent sur le côté technicien de Prométhée. Mm-hmm. Un feu qui peut être dangereux d'ailleurs, hein, quand on va commencer à cloner des bébés, on va se demander si Prométhée a eu tout à fait raison de donner aux hommes la possibilité de changer leur destin par la technique. Mais le premier feu, c'est le feu de l'esprit. C'est donc celui qui s'exprime, comment dire, par la représentation elle-même, par la représentation théâtrale elle-même.
Quel est votre rapport, non seulement à cette pièce, mais à Eschyle, Olivier Py? Je crois qu'il a beaucoup compté pour vous. Vous avez traduit Eschyle, n'est-ce pas?
Alors, je traduis toutes ces pièces, et il n'y en a pas tant, puisqu'il nous en reste que 7, malheureusement. Il en a probablement écrit plus de 100. Il y a quelques fragments ici et là, mais enfin, on n'en a pas tellement. On en a 7. Donc c'est facile à traduire. Ce sont des textes assez courts. Ça ressemble plutôt à des livrets d'opéra. D'ailleurs, en général, sans aucune didascalie, sans aucun nom de personnage. Donc on ne sait pas très très bien qui parle. C'est un texte assez compact et très court. Malgré tout, ces 7 pièces ont, surtout à partir du 19e, je pense, du 19e siècle, ont fondé notre rêve de démocratie. Donc le contexte politique chez Eschyle est toujours considérable. Mais surtout, Eschyle ne savait pas qu'il écrivait des tragédies. Hein. Ça, il faut
comment ça?
Non, il ne savait pas. Lui, il écrivait quoi? Il écrivait des pièces de théâtre. Il organisait des cérémonies des grandes cérémonies civiques dans lesquelles la pensée était mise au plus haut. On est avant la catastrophe de l'invention de la philosophie. Il faut pas l'oublier.
C'est vous qui le dites, penser... la catastrophe.
Bah oui, c'est moi qui le dis.
Pourquoi ?
Je le redis. Cette détestable philosophie qui a pris en quelque sorte la place qu'avaient les grands poètes tragiques. C'est-à-dire que c'est un système de pensée et ce système de pensée couvre tout, absolument tout. Le politique, mais aussi le champ métaphysique et quelquefois répond à des problèmes juridiques très très pratiques. Alors, j'ai une passion folle pour Eschyle. J'ai pas eu le même amour pour Sophocle, Euripide. C'est pas pareil. Et je dirais que je l'ai aimé d'un amour fou parce que, comme dit Victor Hugo, il est très grand. Mais alors, il est d'une grandeur qui ne nous écrase pas parce qu'il sait être petit aussi. Il a dit, j'ai vécu, ou Aristote lui fait dire, j'ai vécu des miettes du banquet d'Homère. C'est incroyablement humble pour le premier grand poète tragique et peut-être le plus grand poète, un des plus grands poètes de l'histoire de l'humanité. C'est extrêmement humble. Et puis, c'est un homme qui a fait la guerre, qui sait décrire les souffrances humaines et la souffrance des plus humbles. Donc, il est grand, très grand, immense, par sa portée idéal, qui n'est jamais idéologique, mais il sait aussi être au niveau de la souffrance humaine.
Vous dites que c'est le premier poète grec, il faut l'entendre aussi dans un sens chronologique. Eschyle a 30 ans de plus que Sophocle, 45 ans de plus que Euripide, 55 ans de plus que Socrate, ce qui explique d'ailleurs la différence de tonalité entre leurs œuvres et la sienne. Chez lui, il y a vraiment, le théâtre n'est pas encore arrivé au niveau des individus, comme on l'a vu avec Euripide hier, on parlait de Médée avec Pierre Judet de Lacombe. On est encore du point de vue, disons, c'est la guerre et c'est le destin de la cité. C'est pour ça qu'il y a une portée, dites-vous, non seulement politique mais aussi métaphysique.
On a pensé qu'il était moins psychologique que Sophocle, mais je pense que c'est une idée complètement reçue. C'est simplement notre manière de représenter l'humain et de pas se perdre dans des petits effets de feuilleton qu'on peut avoir quand on lit Antigone, par exemple. Au contraire, nos personnages, là évidemment si on est dans Prométhée, il n'y a que des dieux, mais nos personnages, et même quand ils sont des dieux, sont incarnés, sont des personnes, ont à voir avec le temps, ont à voir avec l'époque. Ce sont pas du tout des idées, ni des grandes statues de pierre. C'est pas du tout un théâtre d'idées, en fait. Si vous voulez, il y a un système de pensée qu'on appelle le théâtre, en quelque sorte, qui repose entièrement sur le mythe et sur l'allégorie. Sur le mythe, peut-être l'adverbe entièrement n'est pas très juste, car il y a des rapports élastiques entre le mythe et la tragédie grecque. Mais en tout cas, sur l'allégorie, c'est très très présent. C'est comme ça que les idées s'expriment avant la catastrophe philosophique, où on va penser qu'on pourrait avoir un mode plus étanche, plus solide, le concept. Avant le concept, il y a un visage qui entre en scène à un certain moment, un certain soir, pour une certaine communauté réunie, et c'est comme ça que la pensée s'exprime. Moi, je rêve de ce mode de pensée, comment dire, anté-conceptuel. Enfin, j'en rêve, mais après tout, j'en vis aussi, parce que le théâtre est toujours là, et qu'il a sa manière de penser, et qu'elle est différente de la pensée théorique et discursive.
Chez Eschyle, en tout cas, l'action est d'une simplicité déconcertante, presque statique. Un seul événement remplit la tragédie dans le Prométhée enchaîné qui nous occupe ce matin. Le héros Prométhée, le titan, d'un bout à l'autre de la pièce, est cloué sur son rocher, condamné à une forme d'impuissance, en tout cas à une forme d'inaction par son corps. On va voir que cette impuissance ne s'étend pas à son esprit. Je vous propose qu'on le retrouve, qu'on écoute cette ouverture du Prométhée enchaîné. C'est dans une mise en scène de vous, Olivier Pi, c'était au Festival d'Avignon en 2016. Écoutez.
Fils intrépide de la sage Thémis, c'est malgré moi que je t'attache sur ce roc avec des nœuds d'acier que tu ne peux pas vaincre. Ici, plus de regards et plus de voix humaines, rien que les rayons du soleil sur ton visage brûlé. La nuit sera ta joie sous son manteau d'étoiles et le jour ta douleur en dégivrant l'aurore. Douleur sans fin, ton sauveur n'est pas né. Voilà ce que l'on gagne à trop aimer les hommes. Dieu qui n'a pas craint les dieux pour honorer les hommes, tu as brisé la loi. voilà ton châtiment. Rester sur ce rocher sans repos, sans sommeil. Là, tu pourras gémir et pleurer pour toujours. Mais tu ne plieras pas la volonté de Zeus. Il a la cruauté de tous les jeunes rois.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de tragédies antiques cette semaine. Aujourd'hui, Prométhée enchaîné d'Eschyle en compagnie d'Olivier Py. Et vous venez d'entendre Héphaïstos qui cloue à son rocher Prométhée. Il y a une chose qui pose problème au début de cette pièce, Olivier Py, c'est qu'on ne sait pas pourquoi Prométhée est cloué à son rocher.
Oui, c'est vrai, on ne le sait pas. Mais on l'entend dès les premiers vers comme un grand coup de poing dans la gueule. Quelque chose qui fait qu'on est cloué avec Prométhée, en tout cas. On sent bien qu'il y a là une faute originelle et que cette faute originelle est en fait ce qui nous permet d'être présent à une représentation. On sent bien que c'est au nom de l'esprit que ce personnage-là est en situation d'un prisonnier politique. On peut simplement, et je crois que c'est ce qui a le plus ému dans les représentations qu'on avait faites à Avignon, l'envisager sous l'angle politique, le voir comme un Nelson Mandela qui connaît une vérité. Cette vérité, c'est la perspective historique. Mandela devinait l'histoire, et c'est la force de Prométhée. Il devine quelque chose, il a un secret. Il a un secret sur l'avenir, et ce secret sur l'avenir, c'est la conscience de l'histoire. Cette histoire ira forcément obliger Zeus à dialoguer avec les humains et à moins de verticalité, en quelque sorte. On va inventer un nouveau rapport entre les hommes et les dieux. Ça s'appelle la démocratie. Alors, la démocratie, il faut faire attention quand on dit ce mot-là. Il ne faut pas imaginer que notre démocratie ressemble à celle du 5e siècle athénien. Non, bien sûr, mais en même temps, on s'en est inspiré. Pour Eschyle, la démocratie est un système général. Comment dire ? C'est tout simplement le contraire de la folie. C'est le contraire de l'hubris. Ça existe à l'intérieur du corps, où les humeurs doivent trouver un rapport démocratique. Ça existe dans l'éducation, ça existe bien sûr dans le rapport entre les humains, dans la cité, dans le rapport civique, mais ça existe aussi au niveau religieux. La démocratie, c'est tout ce qui fait que il y a un équilibre qui est le contraire du déséquilibre et de la folie, et que par cet équilibre, on va accéder à quelque chose de plus. La concorde et l'équilibre vont nous donner un enrichissement de notre conscience. Alors, il faut faire attention, hein. C'est pas du tout, le juste milieu pot-au-feu pépère. C'est pas ça du tout que propose Eschyle. C'est un équilibre entre les forces, y compris d'ailleurs au niveau financier. Je crois que dans l'Orestie, on dit que la cité est en danger quand un homme est trop riche, quand il y en a un qui est plus riche que les autres. C'est par cet équilibre qu'on va atteindre un nouveau niveau, un niveau supérieur de la conscience. Cette idée est absolument géniale et elle s'appelle la démocratie chez Eschyle.
Mais pourquoi parlez-vous de démocratie alors que dans cette pièce, les êtres humains ne n'apparaissent pas en tant que tels? Prométhée est un titan, les autres sont des dieux.
Oui, il n'y a que des dieux dans cette pièce. Il y a aussi des pièces d'Eschyle où il n'y a que des humains. Il faut lire les Perses, c'est intéressant parce que justement, il n'y a ni mythe, ni dieu, ni construction théologique. Vraiment, c'est pas du tout une cosmogonie, c'est une pièce qui raconte un épisode récent. Donc là, oui, on est chez les dieux. Mais enfin, il n'y a pas d'humains, c'est relatif parce que notre Prométhée, il est quand même très humain, et qui parle au nom des humains. Donc il n'y a pas d'humain, mais il y a l'humanité. Ce qui va s'établir, c'est quelque chose comme un rapport plus démocratique entre le pouvoir et les humains, enfin, entre les dieux et les hommes, ou entre le tyran, ou entre le détenteur du pouvoir et la cité. Un rapport où au moins quelque chose comme le dialogue va être possible. Eschyle nous dit qu'il va nous donner quelque chose qui est peu, mais ce peu est beaucoup, et peut-être que ce peu est assez. Et ce peu, c'est la possibilité de la parole. Et c'est ça d'ailleurs qui est de l'ordre du feu. Avant lui, les dieux parlent et l'homme subit. C'est tout. Enfin, quand je dis lui, je parle de Prométhée, mais peut-être que je parle d'Eschyle, parce que
les identifie.
Se compare lui-même à Prométhée, bien sûr, il s'identifie. pour le grec, la notion de d'égalité, elle n'existe pas. Il faut trouver une sorte d'équité ou d'équilibre. L'idée de fraternité, ça c'est franchement chrétien, ça n'est pas présent. Mais il peut y avoir un souci des victimes. Ça c'est fondamental chez Eschyle. Et puis il y a cette chose, ce concept aussi très chrétien qui est la liberté. Évidemment, on a du mal à comprendre ce que peut être la liberté pour un grec, parce que nous on a eu 2000 ans de liberté chrétienne. Donc cette liberté chez Eschyle, elle va être bornée et elle va être définie par Eschyle. Elle a des limites, notamment on ne résurrecte pas les morts. Hein, ça pour un grec, ça n'est pas possible. Ce fou furieux de Galilée qui prétend avoir ressuscité des morts brise complètement les limites de la liberté. Donc l'Ananké, cette déesse que même les dieux craignent et qui est une déesse difficile à définir, c'est simplement que ce qui a été et qu'on peut pas faire qui n'a pas été. Et ça, même les dieux ne peuvent pas revenir là-dessus. Donc l'Ananké borne la liberté de l'homme, voilà, tu crèves et un point c'est tout. Sauf que Eschyle dit d'accord, je ne peux rien faire, je crève et c'est tout. On peut pas ressusciter l'enfant mort. D'accord, très bien. Mais alors vous allez me laisser une chose, je vais avoir le droit de dire quelque chose là-dessus. Sur le corps de l'enfant mort, sur le corps d'Astyanax, je vais avoir le droit de dire quelque chose.
C'est le droit et de parler, c'est le droit à la parole, c'est ça?
Voilà. Ouais. Voilà. Pas de manière muette. D'accord, on m'amène à l'abattoir, c'est comme ça, mais j'aurai le droit de gueuler quand même. Et c'est ça que Prométhée nous apporte, c'est pas beaucoup. Hein, c'est pas Jésus du tout. Il nous apporte cette liberté, simplement cette liberté de pouvoir formuler la tragédie de notre destin. C'est peu, c'est beaucoup, peut-être c'est assez.
Pourquoi dites-vous que c'est un prisonnier politique, Prométhée ?
Bon, écoutez, il est enchaîné, très très clairement, par force et pouvoir, qui sont deux allégories. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Notre tyran Zeus lui envoie des émissaires pour essayer de négocier. Un premier émissaire qui est l'océan, en quelque sorte, qui alors lui est une sorte de vieux diplomate, qui lui dit qu'il vaudrait mieux tempérer, etc., plier le genou, faire amende honorable, etc. Et puis, une chose très poétique, ce poète exilé dans sa prison, ce prisonnier politique, il dialogue avec qui? Il dialogue avec les océanides, il dialogue avec les vagues, quoi. Il n'a comme ami que les vagues de l'océan. Et elle, ces vagues, petit à petit, elle change d'avis au cours de la pièce. Elle commence par trouver que quand même le sort de Prométhée n'est pas enviable, jusqu'à être prêt à partager sa cellule et sa souffrance. Donc on sent qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui se met en place. Il a réussi à agiter les vagues de l'océan. Et puis il y a d'autres personnages. Il y a plusieurs épisodes. Ils sont très courts, mais ils sont très puissants.
Oui.
Il y a plusieurs épisodes. Et notamment cet épisode un peu étrange de Io, qui vient un peu comme cheveux sur la soupe.
Alors qui est Io ?
On comprend très très bien ce que vient faire Io. Alors c'est une femme qui a perdu une part de son humanité, parce qu'elle est transformée en vache, pour une raison simple, c'est qu'elle n'a pas voulu coucher avec Zeus. Mm-hmm. Elle n'a pas voulu coucher avec Zeus, et pour ça elle est punie. Alors Prométhée est enchaîné, elle est exilée, donc en quelque sorte ce sont les deux conditions de l'opposant politique. Mais je dirais qu'elle est avant tout une femme. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut rapprocher cette pièce d'une autre pièce qui est Les Suppliantes. Le sujet en est très très bref, puisque les personnages centrales et le cœur des Suppliantes, ce sont des femmes qui ont fui le viol dans leur pays, le viol systématique, et qui demandent asile à une démocratie. Cette démocratie va leur accorder asile, mais en leur accordant asile, elle va aussi refonder elle-même ses propres lois et sa démocratie. C'est-à-dire que dans cette pièce, Les Suppliantes, qui est peut-être la plus vieille de l'histoire de l'humanité, Eschyle nous propose de construire nos démocraties ou nos organisations politiques à partir du droit des migrants, de l'étranger et des femmes. C'est extraordinaire. Mmh. Quand on a joué cette pièce et qu'on l'a joué absolument partout, d'ailleurs, dans des associations.
Vous l'avez joué en prison, n'est-ce pas ?
On l'a joué en prison, on l'a joué dans des associations, on l'a joué dans des associations de femmes, partout. Personne ne pouvait retenir ses larmes parce que elle croisait le quotidien de manière inouïe. Alors, je rapproche de cette pièce parce que dans cette pièce, ces femmes sont les descendantes d'Io. Donc c'est toujours la même idée. La première chose que fait le tyran, c'est de s'approprier les femmes. Donc le droit des femmes est fondamental. Ça ne veut pas dire évidemment que Eschyle proposait forcément d'être paritaire et de donner aux femmes la même place que les hommes. Mais en tout cas, les femmes ne pouvaient pas être traitées comme des objets ou comme des esclaves. Leur corps leur appartient. Et alors Io est à la fois les femmes, et Eschyle parle pour elle, mais elle est aussi autre chose, et ça me touche aussi très personnellement, elle est la Méditerranée. Parce que comme elle est errante, et qu'elle est jetée sur cette barque, et qu'elle fuit tout le temps un pays en guerre pour un autre pays en guerre, eh bien elle dessine la géographie de la Méditerranée. Il y a toujours un moment où Eschyle, dans ses pièces, fait un cours de géographie. C'est normal, hein, parce que la tragédie servait de tout, et aussi à faire un cours de géographie. Et cette géographie est quelquefois un peu délirante, mais quelquefois elle est assez juste aussi, et elle dessine le pourtour méditerranéen. Donc quelque chose comme la conscience de la Méditerranée, je continue à penser que la Méditerranée, c'est une idée plus forte que l'Europe encore, se dessine par le personnage d'Io, qui a une empathie évidemment avec la solitude et la souffrance de Prométhée.
Mon obstination n'est pas un orgueil insensé. Une pensée pourtant me dévore le cœur. Je suis celui par qui règnent les jeunes dieux! Mais vous savez déjà ce que je pourrais dire. J'aime mieux raconter les malheurs des humains. Ils étaient des enfants. J'en ai fait des adultes. Je ne les juge pas, mais c'est la vérité. Voilà de quoi je pense. Ils me sont redevables. Ils regardaient sans voir. Écoutaient sans entendre, comme un songe, il vivait dans une vie absente. Il ne construisait rien, ni en bois, ni en pierre. Il vivait sous la terre, comme des fourmis grouillantes, éloignées du soleil dans des grottes obscures. Ils étaient incapables de prévoir les hivers, ni le printemps en fleurs, ni l'été des récoltes. Ils agissaient sans conscience de leurs actes, jusqu'au jour où je leur ai livré les secrets du lever et du coucher des astres, la science suprême du nombre, l'écriture, mémoire et mère des arts. Pour leur épargner les travaux trop lourds, j'ai mis les bêtes à cornes sous le joug et les chevaux qui font la richesse et l'orgueil. Et j'ai fait les bateaux qui sillonnent les mers. Et moi, qui pour les hommes ai conçu tout cela, je ne peux aujourd'hui me libérer moi-même.
Vous avez dit, Olivier Py, que Prométhée n'était pas une sorte de Christ, justement, qui s'incarnerait pour venir sauver l'humanité. Ce qui est sûr, c'est qu'il se présente comme un sauveur indispensable à l'humanité. Quel texte venons-nous d'entendre, hein? La langue est incroyable, j'imagine que c'est votre traduction. Le texte est interprété par Frédéric Le Sacripant, hein, qui jouait Prométhée. C'est troublant de voir la manière qu'a Prométhée de se présenter comme étant celui qui apporte la liberté à l'homme, mais qui aujourd'hui ne peut se libérer lui-même.
Oui, il est intraitable, hein. Il est même pénible. Il est même pénible, comme tous les jusque-boutistes. Bien sûr, il apporte la liberté à l'homme. Il va lui apporter, entre autres techniques, la parole, mais il va aussi lui apporter de la souffrance. Et ça, il le sait. Il sait que les hommes vont aussi payer pour la liberté qu'il prend pour eux, qu'il leur donne presque de force. Alors, quelle va être la réponse de Zeus à ce geste incroyable? C'est de l'envoyer en prison. Ce que Zeus demande, c'est que au moins il fasse amende honorable et qu'il reconnaisse que la parole, c'est pour les dieux, c'est pas pour les hommes. La technique, c'est pour les dieux, c'est pas pour les hommes. La création, c'est pour les dieux, c'est pas pour les hommes. Alors il est pas du tout prêt à le faire. Et donc à la fin de la pièce, eh bien après une prison plus dure, le cachot. la fin de la pièce. Oui et non, parce que Eschyle écrivait des tragédies. Non, il écrivait 3 tragédies. Hein, et même 4, parce qu'il y avait des pièces satiriques, malheureusement, on a perdu. Enfin, il écrivait 3 par 3. Alors, j'ai une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, et peut-être il faudrait poser la question à des plus savants que moi, dont le merveilleux Judée de la Combe. Ma théorie, c'est que la tragédie, c'est ce qui finit bien chez Eschyle.
Ah oui?
C'est pour ça qu'il est plus grand que les autres. Voilà. Oui, c'est ce qui finit bien. Chez Eschyle, la tragédie finit bien. Le problème, c'est qu'on n'a que 7 pièces, qu'elles appartiennent à des trilogies, et qu'on n'a qu'une seule trilogie, c'est l'Orestie, qui finit bien dans la réconciliation de la cité. C'est d'ailleurs un peu ennuyeux la fin, hein, parce que ça finit presque trop bien. Alors on est plein de bénédictions, et ça fait un théâtre un petit peu ennuyeux. Mais par contre, ça finit bien. On a une autre pièce qui est peut-être la fin. C'est les 7 contre Thèbes, qui est peut-être la fin d'une trilogie aussi, on n'en est pas tout à fait sûr. Et ça finit bien. Ça finit bien parce que, même si les 2 frères s'entretuent, ça c'est sur le plan individuel, ça finit mal, sur le plan collectif, ça finit bien, parce que la cité est sauvée. Le sujet est extraordinaire des 7 contre Thèbes. Une cité assiégée refuse de se battre parce que les boucliers des ennemis sont décidément trop terrifiants et trop beaux. En quelque sorte, c'est comment l'image, la médiation par l'image, nous enlève tout courage à la révolte. Et puis il y a Étéocle qui dit, mais ne vous laissez pas tromper par ces images, battez-vous, au moins battez-vous. Alors Étéocle meurt, mais la cité est sauvée. À la fin d'une trilogie eschylienne, la cité est sauvée. Il ne s'agit absolument pas de désespérer le public. Au contraire, il s'agit de lui donner toute l'énergie pour la construction d'un avenir meilleur. Donc on peut penser que Prométhée, qui était une trilogie, finissait bien. Sauf que ça, c'est la première pièce. Donc c'est Prométhée enchaîné, ensuite on a Prométhée porteur de feu, et puis, paraît-il, il y avait Prométhée délivré. Donc quelque chose a été entendu par Zeus, et c'est probablement la figure de son fils Hermès. Et Hermès n'est pas tout à fait n'importe qui, il est l'intermédiaire. Il est même l'intermédiaire entre les hommes et les dieux.
Alors, c'est lui, le messager des dieux, enfin, on le présente comme ça.
C'est le messager des dieux, mais lui, il est assez pré-chrétien, hein, il ressemble beaucoup à l'esprit, hein, ou à la troisième personne de la Trinité. En tout cas, Hermès a compris que si Zeus restait cramponné à son pouvoir intraitable, il lui arrivait ce qu'il était arrivé à son père, c'est-à-dire qu'il allait être détrôné à un moment par des dieux plus jeunes. Donc il fait comprendre à Zeus qu'il doit négocier sans perdre malgré tout son pouvoir. Donc c'est ce que je vous disais précédemment, ça change pas grand chose, on crève toujours, on n'atteint toujours pas aux finalités, hein. On n'accède pas au sens chez Eschyle. Mais par contre, on a le droit de poser la question, on a le droit de dire qu'on en souffre, on a le droit de dialoguer entre nous, on a le droit de découvrir de l'empathie dans nos souffrances, bref, on a le droit à la culture. Mm-hmm. On l'entend bien dans ce premier texte qu'on a entendu. Hein. La culture sans la démocratie, ça veut rien dire, mais la démocratie sans la culture, ça veut rien dire non plus. Pour Eschyle, évidemment, l'accès à l'intelligence et à la connaissance, c'est ça le fondement de la démocratie. C'est pas simplement une démocratie juridique.
Alors, on a accès, on a le droit de poser des questions, vous dites on a le droit de souffrir avec les autres, tant mieux quand on lit Eschyle. Et justement, il y a une question, et je doute qu'elle ait une réponse dans cette pièce, mais quand même, une question qui ne peut pas ne pas se poser quand on assiste ou quand on lit cette pièce, c'est pourquoi ? Pourquoi Prométhée aime-t-il tant les hommes ? Pourquoi veut-il sauver les hommes ? Il dit qu'il a guéri les humains de la peur de la mort avec des illusions, comme si lui-même avait inventé le théâtre, au fond, avait inventé la représentation qui nous éloigne de la mort pour mieux l'accepter. Pourquoi Prométhée est-il du côté des hommes et pas des dieux ?
Parce qu'il est voyant. Il est voyant. Et ce qu'il voit, c'est l'histoire. Enfin, ce que Eschyle voit, c'est l'histoire. Et ça, c'est extraordinaire, parce que 2500 ans plus tard, on continue à voir la perspective par les yeux de ce poète. Il voit que quelque chose advient. C'est une avancée dans l'humanité qui va aller vers plus de formulation de sa condition. Encore une fois, c'est limité, hein, par rapport au christianisme, au choc de la résurrection des morts. C'est limité. Et Schill ne pense pas qu'on atteindra forcément aux causalités. Il ne pense pas qu'on pourra changer la toute-puissance de la mort, la toute-puissance d'Ananke, la toute-puissance de Athée, qui est une autre déesse sans représentation, c'est pour ça qu'on la connaît un peu moins que les autres, qui est la violence du pouvoir, ou la violence elle-même, ou la violence tout court, ou la violence aveugle. Cette athée, on ne pourra pas forcément la retirer du destin de l'humanité, mais quelque chose avance, quelque chose va, et quelque chose vient. Et c'est ça qui fait que Prométhée est fort par rapport à Zeus.
Mais c'est quoi ? C'est le sens de l'histoire, c'est ça ? Il est hégélien, en fait, Prométhée ?
Oui, absolument.
Ah oui ?
Il a lu Hegel. Mais oui, bien sûr qu'il a lu Hegel. Il croit à l'histoire. Et c'est ça qui fait trembler le pouvoir, comme Mandela a cru à l'histoire. Il fallait une force inouïe, la force d'un voyant, une force qui ne peut pas être strictement politique, qui est de l'ordre du poétique, pour voir que l'histoire est quelque chose, non pas qui va, mais quelque chose qui vient. C'est quelque chose qui vient et qui vient d'abord dans le cœur d'un individu, puis dans le cœur d'un deuxième individu, et que ça se propage comme les vagues de ces océanides jusqu'à une conscience collective qui va changer quelque chose dans le destin de toute la cité d'abord, et puis peut-être de toute l'humanité.
Donc il voit l'histoire parce qu'il est humain ou parce qu'il est du côté divin, justement, Prométhée ?
Et parce qu'il est un peu entre les deux. Hein. Alors, ça n'est pas un vrai homme et un vrai Dieu, il n'est pas hypostasié comme le Christ, mais enfin, c'est un demi-dieu, disons. Il y a un intermédiaire. C'est pour ça que le personnage d'Hermès est extrêmement important.
Oui, on y arrive, oui.
Et oui, c'est pas pour rien qu'Hermès est trismégiste, il est trois fois voyant, il est trois fois maître, donc il est un brouillon de la Trinité. En tout cas, ce qu'il faut comprendre dans le fonctionnement d'Hermès, c'est qu'il lance une dynamique par rapport à la puissance aveugle des dieux, ou, traduisons en termes politiques, la puissance aveugle du tyran. Il y a Hermès. Il y a un intermédiaire, il y a une possibilité de dialogue dans la mesure où dans ce dialogue on ne prendra pas la place des dieux, ni la place du tyran. Donc quelque chose dans la cité reste en place, et on peut pas tout à fait comparer cette démocratie athénienne à celle que nous rêvons de construire dans nos sociétés occidentales. On peut pas tout à fait comparer, mais malgré tout, la base de cette possible démocratie hier et aujourd'hui, c'est la culture, c'est le fait culturel.
Voici donc le dialogue, le face-à-face entre Prométhée d'un côté et Hermès de l'autre.
Voici le messager de Zeus, valet du jeune roi. Nous allons apprendre du nouveau.
Toi le malin, rebelle parmi les rebelles, qui a volé les dieux par amour des mortels. Voleur de feu, mon père t'ordonne de parler. Quel est ce mariage qui menace son trône ? Dis-le, sans énigme, clairement, ne m'oblige pas à refaire ce voyage. Tu vois que Zeus ne négocie pas.
Les mots et l'arrogance d'un valet du pouvoir. Comme vous êtes jeune, votre pouvoir est jeune. Vous pensez habiter un château imprenable. J'ai vu deux rois tomber, j'en verrai un troisième. Et le roi de ce jour tombera bien plus bas. Tu voudrais me voir craindre les jeunes dieux ? Oh non, je n'ai pas peur du tout. Va, vite, fais le chemin en sens inverse. Je ne te dirai rien de ce que tu demandes.
C'est ton obstination qui t'a valu ces chaînes.
Je préfère mon malheur à ta servilité. Mieux vaut être enchaîné que messager de Zeus. Tu viens pour m'insulter, et c'est moi qui t'insulte.
Tu es fier de ton sort.
Fier ? Oui, je souhaite le même à mes ennemis.
J'en fais partie.
Je hais tous les dieux. Je sais ce qu'ils me doivent. Voilà la récompense.
Tu es devenu fou.
Fou ? De haïr mes ennemis ?
Si tu étais au pouvoir, tu serais un tyran.
Hélas.
Tu te moques de moi comme un enfant.
C'est toi qui fais l'enfant, un enfant imbécile. Quand tu attends de moi que je te dise tout, ni torture, ni ruse ne me feront parler. À moins que Zeus ne brise mes chaînes, lancez sur moi la flamme dévorante. que la neige recouvre tout de son aile, qu'un tremblement de terre écrase l'univers. Rien ne me forcera à révéler le nom de celui qui viendra lui voler le pouvoir.
La philosophie a fait sienne la profession de foi de Prométhée. En un mot, je hais tous les dieux. Et cette devise, elle l'oppose à tous les dieux du ciel et de la terre, qui ne reconnaissent pas la conscience humaine comme la divinité suprême. Elle ne souffre pas de rival. Mais aux tristes sires qui se réjouissent de ce qu'en apparence la situation sociale de la philosophie est empirée, elle fait à son tour la réponse que Prométhée fit à Hermès, serviteur des dieux. « Jamais, sois-en certain, je n'échangerai mon misérable sort contre ton servage. J'attache plus de prix à être rivé à cette pierre qu'à être le valet fidèle et le messager de Zeus le Père. » Dans le calendrier philosophique, Prométhée occupe le premier rang parmi les saints et les martyrs.
France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
Et oui, le face-à-face entre Prométhée et Hermès qu'on trouve dans la dernière partie de la tragédie, hein, Prométhée enchaîné. Ici, c'était Philippe Girard qui interprétait Hermès, Frédéric Le Sacripant du côté de Prométhée. Et le texte que j'ai lu qui fait un écho direct à cette scène, savez-vous qui a écrit ce texte, Olivier Py?
Mais non, je vous écoute.
Eh bien, il s'agit de Karl Marx.
Formidable, formidable. Et je comprends bien qu'il ait été intéressé par cette pièce et par cette formule incroyable. Je hais tous les dieux, qui est absolument littéral. On peut difficilement le traduire autrement. On peut se dire que Eschyle était quand même gonflé de dire ça au cœur du Panthéon. Effectivement, il va placer la conscience humaine à la hauteur du Panthéon zeusien. Et je dirais que c'est la figure d'Hermès qui permet ça, parce que Eschyle a compris quelque chose. Quand les dieux parlent, ça fait mal. Hein. Quand la foudre tombe ou le coronavirus, on comprend que ça fait mal et le dialogue est assez maigre. Mais Hermès peut être le messager des dieux en cela qu'il nous donne l'information que Zeus est intraitable, mais Eschyle sait aussi que ça peut marcher en sens inverse. Hermès, c'est aussi la possibilité de s'adresser aux dieux. Et là, tout change. Mmh. Et cette possibilité de s'adresser aux dieux, eh bien, c'est ce qui est en train de se passer de manière performative sur la scène quand on représente une tragédie. On est en train de formuler quelque chose que les dieux ne peuvent pas ne pas entendre. Et on va même rendre les dieux nostalgiques de notre humanité. On va leur faire comprendre qu'être enchaîné sur ce rocher, c'est quelque chose qu'ils ne comprendront jamais et qu'il leur manquera quelque chose. Eschyle arrive à créer chez les dieux un manque, et ce manque est l'humanité elle-même.
Oui, mais, et ça, ce tour de force est absolument incroyable et très émouvant. C'est vrai quand on l'écoute, quand on l'entend formuler ainsi. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que Marx cite cette scène en particulier, parce qu'il y a quelque chose d'hégélien, vous le disiez tout à l'heure, dans cette scène où finalement Prométhée enchaîné dit « Je suis plus libre que toi qui es messager de Dieu », comme si c'était le soi-disant esclave qui en fait était plus libre que son maître.
Absolument. Il va rappeler aux humains qui l'écoutent, même s'il est seul là à ce moment-là, mais enfin, il a quand même 10 000 personnes face à lui sur la scène. Il va leur rappeler que leur vie intérieure est une chose que les dieux ne peuvent pas leur enlever. C'est incroyable, c'est un choc incroyable. Je me demande si aujourd'hui, on n'a pas le même choc quand on arrive à accéder à cette pensée, mais pas comme une pensée théorique, comme une expérience. Peut-être que c'est le théâtre qui donne ça. Encore une fois, il faut dépasser la philosophie, parce que Quand nos amis Socrate et Platon veulent chasser les poètes de la cité, tout le monde connaît bien cette formule, mais les poètes, ça veut dire les tragiques, ça veut dire un système de pensée qui est basé sur la théâtralité. Et alors ce système de pensée, peut-être qu'il revient maintenant, hein. Peut-être qu'on pourrait penser d'ailleurs la phénoménologie comme une volonté de revenir à quelque chose d'avant la catastrophe de l'avancée.
Qu'est-ce que vous voulez dire que c'est l'air est au... Et au théâtre à nouveau, c'est ça?
Oui, je crois. Je crois que il y a plusieurs choses dans le théâtre. D'abord, il y a l'incarnation, mais il y a aussi le collectif. Et puis, il y a aussi le fait que nous sommes liés au temps. Quand on lit un livre, c'est toujours et pour personne, tandis que au théâtre, c'est ici et maintenant pour la communauté d'esprit qui s'est réunie et c'est elle qui va fonder quelque chose. Et Prométhée est là. Il ne nous dit pas créer des concepts qui vont nous libérer. Non, non, non. Il nous dit vivez une expérience dont les dieux vont être jaloux. Et ça marche.
Mais vous opposez toujours la philosophie et le théâtre comme s'il fallait choisir son camp et comme si lire un texte de philosophie et en parler lors d'une émission de radio n'était pas aussi proposer une expérience de pensée comme le théâtre.
Non, mais laissez-moi ma petite jouissance.
Ah, mais je vous la laisse. Je veux juste la comprendre. Et je veux juste montrer que les choses ne sont pas aussi schématiques quand même. Vous le savez bien, vous citez Hegel, non, vous citez non, les philosophes, non. Vous les connaissez bien.
Non, 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 non. On n'apprend pas à nager dans un livre comme disait Heidegger. Donc, qu'est-ce que penser et qu'appelle-t-on penser? Certainement, il faut qu'il y ait une expérience à un certain moment. Et cette expérience, c'est ce qu'on appelait la tragédie. Donc, ce n'est pas du tout le fatum, ça c'est postérieur. Ce n'est pas le pessimisme, encore moins, ça c'était encore plus récent. Non, c'est l'idée au contraire que par le collectif, on va fonder une joie et peut-être même on va fonder une espérance et que cette espérance sera propre à changer quelque chose. C'est une pensée extrêmement positive que la pensée d'Eschyle. C'est pour ça qu'il est très très grand, parce qu'il ose l'espoir, mais aussi à notre niveau, parce qu'il nous rend compte qu'on y a droit. On a droit à cette espérance. Et il nous donne le droit d'espérer l'espérance. C'est incroyable, et c'est pour ça que j'ai commis une postface, en quelque sorte, pour qu'on ne croie pas que la pièce s'arrête avec un Zeus intraitable, un Prométhée intraitable, et qui finit dans un cachot encore plus noir. C'est pas du tout la pensée d'Eschyle. Si on s'arrête à cette première partie, puisqu'il ne s'agissait que d'une première partie, on a l'impression que la pièce est totalement pessimiste. Or, pas du tout. Il faut aller vers un Prométhée délivré.
Et donc, vous avez fait quelque chose d'incroyable, Olivier Py, vous avez écrit la suite d'Eschyle, de cette pièce.
Oui, c'est ça. Mais je l'ai fait humblement parce que on n'a pas le choix.
Vous n'avez pas eu peur, enfin, quand même.
L'humilité. Non, quand on aime, on n'a pas peur, je crois. J'avais l'impression que je le trahissais, mon petit pépère Eschyle, en ne jouant que la première partie de sa pièce. Donc il fallait au moins que je dise au public, vous savez, la pièce s'arrête là, mais la pensée d'Eschyle ne s'arrête pas là, elle ne s'arrête pas au pessimisme, certainement pas. Elle nous dit que par le collectif, nous allons trouver... quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance. Par le collectif, hein, pas par la métaphysique. C'est extraordinaire. C'est ce que j'ai voulu dire en créant un retour d'Hermès qui fait une fausse sortie, en quelque sorte, et qui imagine peut-être qu'il trouverait les arguments pour que Zeus soit moins intraitable et qu'il change son rapport avec les humains.
Vous voulez qu'on l'écoute, cette suite? C'est un extrait de la suite de l'épilogue que vous avez écrit? Bon, c'est pas libéré, délivré, c'est Prométhée délivré. On l'écoute.
Une alliance nouvelle. Et Zeus y gagnerait quelque chose?
Zeus y gagnerait le pouvoir éternel du Dieu unique.
Parle.
Tant que son pouvoir est fait de violence, Zeus n'est pas autre chose que son terrible père, Cronos. Il a régné par la foudre, il mourra par la foudre.
Qui connaît une arme plus grande que sa foudre?
Le poète.
Quelle est cette arme?
La parole.
Comment manier cette arme?
C'est au Dieu de donner la parole. Cela s'appelle une alliance. C'est comme une écoute dont on ne peut plus se défaire. Et pourquoi les dieux n'écouteraient-ils pas les hommes?
Et qu'est-ce que je serais, moi, dans cette alliance?
Le dieu de la parole. Non pas seulement le messager des dieux, non pas cette parole qui tombe comme la foudre, qui assourdit comme le tonnerre, mais le dieu de la possibilité du dire, le dieu de la parole même, le dieu de cette parole qui, comme les vagues, éternelle, toujours recommence, toujours finit.
C'est un hymne au théâtre, au fond, que vous proposez dans l'écriture de cette pièce d'Eschyle qui a été perdue, Olivier Py.
Mais je ne suis pas capable d'autre chose que de faire un hymne au théâtre, parce que le théâtre est ce que j'ai rencontré de mieux dans mon existence. De mieux parce qu'on ne le fait pas seul, surtout. Et donc ça évite peut-être d'être bête.
Je crois qu'on peut construire des idéologies.
Oui, je le pense, oui, oui. Je pense qu'on construit des idéologies seules dans sa chambre, et quand elles sont confrontées au groupe, il se passe tout à fait autre chose. Et je crois que Eschyle le savait, il y a chez lui aussi une très grande modestie. Mais il est voyant, comme son personnage, il est voyant. Et il sait que ce dieu tout-puissant qu'est Zeus, son règne est en train de changer et que peut-être qui sait, 5 siècles plus tard, un charpentier juif va peut-être remettre en cause la verticalité du rapport de Zeus et des humains. Il pressent quelque chose qu'il ne peut pas définir, évidemment, n'inversons pas la chronologie historique, qu'il ne peut pas définir. Mais enfin, il sent quelque chose. Il y a quelque chose, peut-être de pré-chrétien, mais aussi de post-chrétien, puisque aujourd'hui les dieux sombres, les dieux sans dialogue reviennent dans notre monde. Alors ce sont des algorithmes, ce sont des puissances financières, ce sont des catastrophes provoquées par la technique elle-même, ce sont des égoïsmes personnels, des déséquilibres financiers, et tout ça est en train d'agir comme des puissances face auxquelles il n'y a aucun dialogue. Il faut espérer qu'il y aura des Prométhées, qu'il y aura des Hermès, pour reconstruire cet équilibre que Eschyle appelle la démocratie.
Mais est-ce que ces puissances sombres n'ont pas toujours existé? Est-ce qu'elles ne sont pas constitutives de l'humanité? Simplement, elles prennent un visage différent selon les époques.
Oui. Je ne suis pas certain que l'histoire se répète toujours comme une parodie d'elle-même, malheureusement. En tout cas, je crois que pour les jeunes générations, il y a quelque chose d'incroyable et de très différent de la mienne. Ils envisagent l'apocalypse, mais non pas comme une formulation poétique, de manière concrète. Ils voient la possibilité de la fin de notre écosystème. Il va falloir dans les années à venir que des jeunes poètes se saisissent de cette terreur et de cet effroi et arrivent à construire ce qu'on pourrait appeler des tragédies, mais pas au sens tragique, justement, au sens eschylien, c'est-à-dire un lieu de réunion où on peut essayer d'architecturer l'espérance. Mmh.
Et vous avez vous-même passé beaucoup de temps avec Eschyle et vous en êtes un peu éloigné. Pourquoi ?
Parce que il n'a écrit que 7 pièces. Alors j'ai presque passé 10 ans quand même,
ouais.
Autour de ces 7 pièces, je les ai toutes montées. Je regrette toujours comme une tristesse de très grande de ne pas avoir les autres pièces d'Eschyle. Je pense notamment au Myrmidon, c'est-à-dire à l'Iliade, c'est-à-dire quand il a été directement inspiré d'Homère. On a quelques fragments, mais enfin, je n'ai pas la souffrance d'Achille pour sur le corps mort de Patrocle, et ça j'aurais adoré le lire. Et puis n'oublions pas que Eschyle est un vétéran, il a été à la bataille de Salamine, il a tué des hommes, il s'est posé la question de ces hommes qu'il a blessés et tués, et il leur a donné la parole. Il a décrit la souffrance de la guerre, les poux dans les manteaux, les plaies qui ne se referment pas. Il a décrit tout cela avec un souci de l'humanité qui aujourd'hui encore me donne la chair de poule, nous donne la chair de poule. Ce souci de l'humanité est inscrit dans ses pièces et à mon avis c'est plus grand que Marx. C'est beaucoup plus grand que Marx parce que ça continue d'agir en nous. Ça ne peut pas être racheté par des organisations staliniennes, ça, ce souci de l'humanité. Alors évidemment, je regrette qu'il n'y ait pas les Myrmidons, qu'il n'y ait pas toutes ces grandes pièces sur la guerre, parce que ça nous en apprendrait beaucoup sur comment vivre plus dignement.
Et alors, qu'est-ce qui reste après Eschyle, quand on a passé autant de temps avec Eschyle, et que, vers qui on va?
Bah, il y a Bill, enfin il y a William. Alors heureusement,
Shakespeare.
On en a perdu quelques-unes aussi, malheureusement. Mais enfin, on en a quand même un bon morceau. On en a pour toute une vie avec William. William qui n'avait pas lu Eschyle, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il aurait écrit s'il avait lu Eschyle? Il a lu Sénèque, mais il a pas lu Eschyle. Il a dû tout réinventer, William. Il a dû tout réinventer à son époque, avec son époque, mais au-delà aussi. Avec ce qui est peut-être très fort chez William, mais qui existe aussi chez Eschyle, c'est une certaine conscience de l'Europe. Eschyle n'écrivait pas seul, hein. Il n'écrivait pas seul, bien sûr que non. D'abord, il a hérité d'Homère. Et William non plus n'écrivait pas seul. Et il avait lu Montaigne. Donc, il y a cet héritage. Et quelquefois, il y a un poète qui n'est pas du tout, comment dire, un fou furieux de l'art contemporain qui aurait inventé ex nihilo une idée géniale. C'est pas ça du tout, un poète et un poète dramatique. C'est quelqu'un qui hérite plus fortement que les autres et qui, dans cet héritage, voit les ferments de l'avenir. Et William est irremplaçable. William est le plus grand humain de l'histoire des humains.
Merci beaucoup, Olivier, pour cette conclusion shakespearienne après cette émission. Eschylienne, merci beaucoup d'avoir parlé de Prométhée enchaîné ce matin. Et on vous souhaite, que vous souhaitez, un formidable, un merveilleux festival d'Avignon cet été, n'est-ce pas?
Oui, oui, il aura lieu, il aura lieu.
Eh ben, on sera là. Merci beaucoup, on se quitte avec le Prométhée de Schubert, Benjamin Britten au piano, Dietrich Fischer-Dieskau à la voix. Prométhée à Aurélien Bélanger sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de la question philo du jour.
Tu les aimes, tes cours de philo?
C'est vraiment très enrichissant.
Ça demande encore un peu de pratique.
Bonjour, cher Aurélien.
Bonjour, chère Adèle.
Votre question ce matin est la suivante. Faut-il perdre son temps à essayer de ramener les théoriciens de la Terre plate à la raison?
Eh bien, j'aurais répondu non spontanément. Ils se ramènent très bien à la raison, tout seuls. Soit qu'ils financent une expérience scientifique censée leur donner raison et qui leur donne tort. Soit qu'ils fabriquent des fusées pour constater l'absence de courbure de la Terre et qu'ils se tuent bêtement de ne pas avoir intégré sa rondeur à leur calcul. ces anecdotes sont véridiques. J'ai ainsi été surpris de voir le grand polémiste Chesterton s'emparer d'un sujet si facile et d'entrer dans cette polémique un peu vaine qui consiste à défendre l'allure planétoïdale de la Terre. D'autant plus surpris d'ailleurs que, malgré l'admiration que je lui porte, je ne suis pas certain que 3 siècles plus tôt, Chesterton eût défendu Galilée. Ce chrétien débonnaire a toujours eu l'excommunication facile et on trouve, dans sa superbe biographie de Saint François, le plus gentil de tous les saints, des passages troublants sur Saint Dominique, le marteau des hérétiques. L'arbo lui-même, qu'il adorait, raconte dans son journal que ce grand enfant de Chesterton, dont des allumettes tombaient les cheveux en bataille, était le genre d'homme à allumer des bûchers. Toujours est-il qu'il a bien écrit une défense des planètes en réponse au livre platiste d'un certain Wardlaw Scott. Et comme toujours avec Chesterton, les arguments sont savoureux. Écoutons-le après qu'il a cité une énième absurdité de sa proie. Les raisonnements de ce genre m'anéantissent. Je puis résister faiblement quand un homme prétend que si la Terre était ronde, les chats n'auraient pas 4 pattes. Mais quand il affirme que si la Terre était ronde, les chats n'auraient pas 5 pattes, je me sens écrasé.
D'accord, mais alors pourquoi Chesterton débat-il avec de tels adversaires ?
Parce qu'au fond, il sait à quel endroit ceux-ci ont bien raison. Il est très remarquable, écrit-il, qu'aucun de nous n'est vraiment copernicien dans la représentation qu'il se fait de l'univers. Nous sommes bien convaincus, intellectuellement, que nous habitons une petite planète provinciale, mais nous n'avons nullement le sentiment d'être des provinciaux. Notre imagination poétique, et c'est la raison pour laquelle la Bible n'est pas plus copernicienne que l'Odyssée, est profondément platiste. Et cependant, Chesterton arrive à exhiber une composante newtonienne de la Bible. Il me faut rappeler au passage que suivre une argumentation chestertonienne est l'un des 3 ou 4 grands plaisirs de notre vie terrestre. Alors, écoutons Chesterton. « Tu n'as suspendu le monde sur rien, dit l'auteur du livre de Job, et toute la poésie vertigineuse de l'astronomie moderne est contenue dans cette phrase. Le sentiment de la petitesse et de la fragilité de l'univers, le sentiment d'être dans le creux d'une main nous est offert de la façon la plus frappante dans l'idée d'une Terre sphérique et tournante. La Terre plate de M. Wardlaw Scott serait la patrie idéale d'un athéisme confortable, et c'est comme ça, au passage, que Chesterton accomplit ce prodige inattendu de démontrer l'existence de Dieu par la physique.
Et vous pensez que c'est une preuve recevable ?
En tout cas, c'est un mode de démonstration qui nous vient directement du plus grand docteur de l'Église, de Thomas d'Aquin lui-même. Thomas d'Aquin, dont Chesterton, par-dessus toutes les modestes péripéties de la physique moderne, est l'héritier direct.
Donc, pour répondre à votre question, Aurélien, vous pensez que ça vaudrait la peine parfois de dialoguer avec des théoriciens de la Terre plate ?
C'est bien ce que nous recommande Chesterton en l'espèce. Laissez-les venir avec leurs arguments. Ce ne sera au pire que l'occasion d'affirmer en retour, avec un fracas poétique renouvelé, ce que Chesterton appelle un patriotisme planétaire. La défense rayonnante, orgueilleuse, de ce petit boulet de canon rempli de merveilles que de trop paresseux théoriciens voudraient voir reposer à plat dans leur imagination stérile, alors qu'il exulte de joie et de mystère à travers l'univers, tenu à rien sinon à l'adoration divine.
Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Jules Barbier, Clémentine Marais, Géraldine Bosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions autour des tragédies. À la prise de son aujourd'hui, c'était Nasser Moussaoui. Un grand merci à Arnaud Pin qui travaille avec Olivier Pie qui nous a énormément aidé pour la préparation de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série Tragédie. Demain, nous serons en compagnie d'Heinz Wissmann. Et après Médée hier, Prométhée aujourd'hui, demain ce sera Antigone, encore et toujours là. Et oui, l'éternel retour d'Antigone. Ce sera donc demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission, mais surtout, restez à l'écoute sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture.